Voici l'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récente qui concernent directement ou indirectement la foi chrétienne. Au micro, Catherine Mann et le Père Roger Willem qui commence donc cette émission en vous présentant un premier ouvrage.
Je présente dans cette émission L'Esprit du Livre deux livres. Le premier, c'est Un printemps en Jérusalem de Wolfgang Bücher. C'est édité par la librairie Vuibert, paru en avril 2016. Maître du récit de voyage, Wolfgang Bücher est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Berlin-Moscou et Loin de la mer, paru en 2014. De son séjour à Jérusalem, il a ramené ce portrait d'une ville inattendue. J'écris de nouveau, réveillé avant le jour. L'appel à la prière me saisit par surprise. Rien ne bougeait, pas un son, pas une lumière. Blotti dans la froidure de la nuit, Jérusalem écoutait l'annonce venue du désert. L'appel ne semblait pas venir de la ville. C'était comme si l'encerclait pour déferler en vagues des vagues de sable dur. Et voici un poème, une prière aux vagues. Seigneur, donne-nous la persévérance des vagues qui frappent inlassablement le rivage. Fais que chacun de nos reculs, comme les leurs, soit le point de départ d'une avance. Donne-nous la franchise des grands horizons de la mer, la paix de son immensité, qui ne réussit pas à troubler une tempête locale. Donne à notre âme la pureté, la limpidité, la fraîcheur qu'ont les eaux. Donne-nous de recevoir et de renvoyer ton rayonnement comme elle fait de celui du soleil. Comme elle a la beauté extérieure, donne-nous la beauté intérieure, pas la charité. Oui, c'est tout simplement cela. Enfin, ce qui est merveilleux dans ce que nous dit cet auteur Wolfgang Bücher, c'est la capacité d'admiration lorsqu'il circule dans les rues de Jérusalem. À n'importe quelle heure du jour, il se passe quelque chose. Comme à Assise, dont nous avions parlé dans l'émission Parole du jour. Jérusalem, c'est une multitude de civilisations qui se croisent, s'entrecroisent, qui sont parfois opposées les unes aux autres et qui découvrent progressivement, par des hommes qui ont le souci de la paix et du dépassement des contradictions et des contrariétés, un sens unique de cette réalité, de cette ville unique entre toutes, une ville éternelle. Il s'en est passé des histoires à Jérusalem, à toutes les époques de notre vie humaine. Il s'est passé beaucoup de choses, des invasions de toutes sortes, des batailles de toutes sortes. Mais il s'est passé aussi quelque chose d'extraordinaire. Il y a un homme qui a surgi pour dire qu'il était nécessaire que l'homme se convertisse à ce qu'il est lui-même, ce qu'il vient devenir un homme Dieu. Et cette conversion a fait de Jérusalem la ville de toutes les villes. On disait souvent que tous les chemins mènent à Rome, Il y a d'abord des chemins qui mènent à Jérusalem et qui font découvrir ce qu'a des centaines d'années ont su réaliser. À travers une petite impasse, une petite ruelle, il suffit d'attendre quelques instants pour entendre le chant d'un oiseau, ou pour entendre une prière dans une synagogue, une petite synagogue où il y a 3-4 personnes, ou une petite chapelle d'une communauté religieuse où on récite le chapelet, avec peut-être une nouvelle conscience de la présence de cette Marie, une servante, qui se promenait aussi dans les rues de Jérusalem, et puis cette découverte de ce Seigneur qui aimait les hommes, qui aimait la vie, et qui aimait partager le repas avec ceux qui lui offraient la joie du partage d'un repas.
Je voudrais à présent vous parler d'un livre paru en juin 2016, mais en livre de poche. En fait, la première parution date de 2013, mais il semble que la parution du livre en format très économique est une bonne occasion pour que ceux qui ne l'auraient pas encore lu aient envie de se le procurer, car le thème est toujours d'une actualité brûlante. Il s'agit d'une autobiographie au titre explicite, je vous le dis, « Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. » Il s'agit donc de Malala Yousafzai, cette toute jeune adolescente pakistanaise, musulmane, qui militait dans son pays pour les droits des filles à l'éducation et qui est devenue la cible des talibans, donc talibans les extrémistes de l'islam, qui lui ont tiré une balle dans la tête en 2012. Elle avait alors 14 ans, mais grâce à un élan international de solidarité qui a permis qu'elle soit envoyée en Angleterre pour ses soins, Malala a survécu. Elle avait déjà été récompensée dans son pays par un prix national pour la paix, mais depuis cet attentat qui l'a fait connaître mondialement, elle a reçu en 2012 le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. En 2013, le prix Amnesty International pour la défense des droits de l'homme, ainsi que le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l'esprit. Et surtout, le plus important, en 2014, Malala Yousafzai reçoit le prix Nobel de la paix, et toutes ces récompenses lui permettent de continuer son combat depuis l'Angleterre, où elle réside encore pour le moment. Alors, dans cette autobiographie, Malala raconte son enfance heureuse au Pakistan, dans une famille aimante, et les études qu'elle a eu la chance de pouvoir faire grâce à l'engagement de son père en faveur de l'éducation des filles. Elle raconte aussi tous les problèmes que sa famille a rencontrés à cause de la persécution des extrémistes musulmans jusqu'au terrible attentat où elle a failli perdre la vie. Au-delà de ce récit, qui permet quand même de se rendre compte de ses dons exceptionnels, une petite fille obligée de mûrir très tôt, et du courage de ses prises de parole publiques en face de ses dangereux opposants, nous pouvons trouver dans ce livre une matière à réflexion sur la situation compliquée que vit la religion musulmane. Déchirée entre la majorité des pratiquants, qui sont sincères, pacifiques et équilibrés, et une minorité extrémiste, violente, obscurantiste et dangereuse, qui veut s'imposer par la force. Dans ce livre, on comprend bien que l'illettrisme des femmes et leur asservissement à des lois barbares n'est qu'une des armes du terrorisme, un moyen parmi tant d'autres de prendre le pouvoir sur toute une population en instaurant partout la peur et la détresse. Tous les moyens sont bons à cette frange malsaine de l'islam pour prendre le pouvoir sur des populations rendues soumises par l'angoisse et par une ignorance telle qu'elle permet alors l'endoctrinement facile des plus faibles. Il apparaît évident, en lisant ce livre, qu'une des meilleures armes contre le terrorisme serait bien évidemment le développement de l'instruction, l'éducation des esprits pour leur donner les moyens de ne pas se laisser séduire par des théories absurdes. Les armes de l'intelligence et de la culture sont aussi importantes, sinon plus, que les armes de guerre. L'espoir de Malala est d'arriver à convaincre les extrémistes par le dialogue, de façon non violente et raisonnable, pour laisser la place à l'islam modéré et sage qui est le sien. Il m'a paru important de soutenir ce projet parce que le problème n'est pas seulement celui de l'Afghanistan ou du Pakistan, mais il est bien en train de devenir mondial et des événements récents nous obligent à réfléchir sérieusement à ce terrorisme qui nous concerne tous aujourd'hui. Le livre de Malala Yousafzai est donc un bon moyen d'aborder cette réflexion de l'intérieur. Je vous en rappelle le titre. « Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans ». Il est paru en livre de poche en juin 2016.
Thank you.
voici un deuxième livre présenté par le père Wilhelm.
Via Appia. C'est un voyage sur la plus ancienne route d'Italie. Et est écrit par Jacques de Saint-Victor aux éditions Équateur Littérature. Jacques de Saint-Victor est historien, écrivain et critique littéraire. Il a reçu en 2013 le prix des ambassadeurs et le prix de l'essai de l'Académie française pour Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique, paru aux éditions Gallimard en 2012. Alors nous voilà embarqués avec Jacques de Saint-Victor sur la Via Appia. Autrefois, s'y pressèrent les légions romaines, les éléphants d'Hannibal, les esclaves de Spartacus, les premiers chrétiens et les princes de la débauche. Cette route mythique unit la mer Tyrrhénienne aux mers Ioniennes et Adriatiques. L'Antiquité à la modernité, le paganisme au christianisme, l'Orient à l'Occident, elle est le socle de notre civilisation. À pied ou à bord de sa vieille Fiat, mais dans un constant esprit de flânerie, nous voyageons avec l'auteur à la rencontre des habitants de ces Sibéries du Sud d'un mezzogiorno inédit, marqué par l'ultra-violence des mafias, mais aussi par une sagesse et un savoir-vivre oublié. J'ai eu la chance de l'apprécier lorsque je me promenais souvent en fin de journée sur la Via Appia pour rencontrer des gens dans ces petits villages où l'on s'est si bien accueilli. Et le point culminant, c'est le partage, assis au bord d'un puits, un puits profond, au fond duquel se trouvent quelques bouteilles de bon vin de ces côtes du centre de l'Italie. Et alors, avec ce bon vin, on vous sert des tranches de jambon d'une finesse exemplaire qui permet de savourer également ce qu'est la vie. Récit de voyage insolite, drôlatique, Via Appia est un livre passionné sur la beauté, l'amour et la liberté de penser. C'est une plongée foudroyante dans une Italie absolument méconnue des Français. À vivre en Italie, en ces jours où le pays est gravement éprouvé par ces tremblements de terre, c'est être en communion avec des gens qui sont d'une solidarité fraternelle tout à fait exemplaire pour toute l'Europe.
Je vous parle à présent d'un livre de Philippe d'Iribarne, dont le titre est « Chrétien et moderne », paru chez Gallimard en mai 2016. Philippe d'Iribarne est sociologue, mais aussi polytechnicien et diplômé de l'Institut d'études politiques, ainsi que directeur de recherche au CNRS, spécialisé en économie et en sociologie. Il a déjà écrit de nombreux livres, dont « Culture et mondialisation » en 1998, ou « Penser la diversité du monde » en 2008, ou encore « L'épreuve des différences » en 2009. Le livre qui vient de paraître, donc « Chrétien et moderne », se concentre sur le rapport ambigu qu'il y a entre le christianisme et le monde d'aujourd'hui avec toute sa diversité. Philippe d'Iribarne montre une parfaite connaissance des évangiles et il en conclut que l'enseignement de Jésus laisse ouvert le rapport à la vérité n'imposant aucun cadre de pensée et que par contre le Christ invite chacun à rester vigilant et toujours en recherche à l'écoute de la parole vivante. Mais il constate que l'Église, avec le temps, a élaboré puis imposé un système dogmatique auquel il suffit d'adhérer sans réfléchir afin de s'installer une fois pour toutes dans des certitudes sécurisantes. Pourtant, il remarque que depuis un siècle, grâce à un profond travail exégétique et théologique, le monde chrétien est en train d'accomplir un retour essentiel vers ses sources évangéliques. La foi chrétienne se trouve donc encore tiraillée entre, d'une part, un goût pour l'uniformisation rassurante d'un cadre dogmatique fixe, et d'autre part, la confrontation avec le monde moderne concret, qui renvoie à la pluralité des cultures, à une multitude de connaissances nouvelles et à un relativisme religieux parfois fort inconfortable. Pour autant, l'auteur n'accepte pas les valeurs de la modernité sans les contester, car, dit-il, elles n'ont pas encore démontré qu'elles pouvaient déboucher sur un monde meilleur. En particulier, les théories politiques de la démocratie, qui, dit-il, n'ont pas vraiment réussi à transformer la réalité concrète de nos sociétés. Le modèle démocratique occidental n'a d'ailleurs pas réussi à convaincre la totalité de la planète, en dépit de ses prétentions à l'universalité. Il n'y a qu'à penser aux résistances de la Chine ou des pays islamiques, par exemple. Donc, Philippe d'Iribarne nous entraîne dans ce livre à un double travail de discernement, pour évaluer d'une part les failles du projet moderne et d'autre part les failles de la tradition chrétienne, avec ses raideurs et ses infidélités au message originel. Il veut en effet dépasser toute opposition entre modernité et christianisme, qui sont, dit-il, en fait intimement liés et qui ne peuvent faire autrement que d'avancer ensemble. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il montre que les deux ont en commun le même défaut, qui est celui de privilégier les systèmes intellectuels en ignorant superbement les résistances du réel concret. Ce qu'il appelle les théories hors sol, sans rapport avec la réalité du corps social. Et, dit-il, c'est dans l'Évangile qu'il propose de trouver des solutions. En revenant à l'essentiel du message du Christ, qui s'adresse à des personnes concrètes pour les guérir, les aider, mais aussi les appeler à changer, les mettre en route avec courage et lucidité dans un monde qu'il faut à la fois aimer et transformer. La vraie vie passe par des rencontres réelles entre des personnes concrètes et établir des systèmes d'idées, aussi généreuses soient-elles, n'est pas suffisant. Et c'est là que le christianisme peut apporter un renouveau au monde moderne, en faisant que les valeurs s'incarnent selon les paroles de l'Évangile. c'est-à-dire en donnant leur juste place aux pauvres et aux faibles, en pratiquant l'amour des ennemis, mais sans les confondre avec des amis. En osant une critique constructive des certitudes stériles, et peut-être même une critique du magistère, en ne s'en laissant pas séduire non plus par le relativisme ambiant, et en affirmant sereinement la spécificité du message chrétien dans ce monde en crise. Donc plein de pistes intéressantes dans ce livre, que je vous rappelle donc de Philippe Diribarne, le titre est « Chrétien et moderne » et il vient de paraître en mai 2016 chez Gallimard. Et je vous dis à présent, chers auditeurs, à très bientôt.